Préfère encore, tu vois, aller sur un marché noir, acheter un bout de shit, désolé de dire ça, dans une cité, que de fumer du HHC. Ça aussi, c'est un autre problème, c'est que l'information, elle est très mauvaise, puisque on n'a pas su mettre des lois précises. Tant que tu mets pas des lois précises, il y aura toujours des petits joueurs pour aller au-delà de la loi. Et ça bouge tellement dans tous les pays que moi, je pense qu'on est très proche d'une légalisation en France quand même. Hein.
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti.
Alors, donc, comme on a déjà vu dans un épisode précédent, justement, je m'appelle Nicolas Trainer-Biz. Je suis donc apiculteur, cannabiculteur, depuis plus de 30 ans. Je suis aussi donc spécialisé dans les abeilles et la symbiose avec la nature. J'ai été le premier à réussir à faire en sorte que les abeilles récoltent la résine du cannabis pour qu'elles me la transforment en propolis en premier dans la ruche et afin d'avoir un miel de cannabis naturel. Ça, on en a parlé un peu plus en détail, mais bon, je pense que les gens, ça sera plus simple qu'ils aillent voir l'autre épisode d'avant, parce que si je me mets à reparler de tout ça, on n'aura pas fini.
Non, pour le coup, en plus, c'était vraiment très bien fait et très bien détaillé dans le premier. Donc il faut aller l'écouter, c'est juste, il faut absolument aller l'écouter.
Sinon donc, comme je disais, ma spécialité c'est la symbiose dans la nature. J'ai eu la chance de partir un peu partout, de bouger énormément dans beaucoup de pays, de m'intéresser beaucoup au niveau de l'histoire du cannabis, des lois qui étaient en vigueur, donc j'ai des bons contacts, on va dire, qui m'ont beaucoup informé aussi sur comment va l'évolution dans le monde du cannabis. Parce que bon, on a souvent l'idée de la France, mais et ou alors on va regarder ce qui se passe au plus proche, type la Hollande, avec le système des coffee shops qu'a mis en place la Hollande depuis 1976, ou alors aussi bien même là, on est en train de regarder beaucoup l'Allemagne, parce que l'Allemagne, le Luxembourg sont tous les deux en train de légaliser en ce moment. Et en Espagne, on est resté sur un système très très de club qui va peut-être changer. En ce moment, on est en période électorale, donc vas-y.
Non, mais j'avais pas du tout l'info que ça allait changer.
C'est en train. Ils essayaient en ce moment récemment de restreindre les clubs depuis quelques temps. Et il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pour amener après une légalisation, peut-être. Et là, comme on est en période électorale, tout est en train de rechanger à nouveau. Hein. Après, ça fait un peu comme en France, hein, au niveau du cannabis médical. Ils avaient un laps de temps pour l'expérimenter. Et au final, le rapport, il est tellement bon qu'il retarde. Il retarde la sortie le plus possible parce que c'est en faveur du cannabis, comme toujours, malheureusement. Donc, on a toujours tendance à regarder ces pays-là. Alors que il y a d'autres pays qui ont bougé beaucoup plus que ça, hein, quand on voit un peu comment évidemment a bougé le Canada, les États-Unis. Bon, le Canada, le problème du Canada, c'est que c'est l'industrie vraiment qui s'est mise en place.
Ok.
Et donc c'est vraiment des gros producteurs principalement. Les petits producteurs, on a essayé tout de suite de les évincer au démarrage, de façon à mettre en place les gros. Et au final, maintenant, on se rend compte, les gros, qu'ils utilisent beaucoup, justement, comme le grand problème qu'il peut y avoir, c'est qu'ils vont utiliser beaucoup trop de pesticides, beaucoup trop de fongicides, et tout ça, on va le retrouver dans ce qu'on fume à la fin, quoi. Donc, c'est une industrie au Canada qui est en train de retourner un peu vers les petits producteurs. C'est pas plus mal parce que c'est aussi chez les petits producteurs. Je suis issu de la Champagne, comme j'avais expliqué un peu dans le premier épisode qu'on avait tourné, et je le vois vraiment que le Champagne, les gens, hormis les noms comme Mouette et Chandon et autres, ils connaissent généralement que ça, alors que bon, faut dire ce qui est, les meilleurs champagnes sont chez les petits producteurs. Parce qu'il va y avoir ce petit côté de terroir qu'on va retrouver justement, d'endroits bien spécifiques, une exposition bien spécifique de la vigne, alors que chez les gros, tout va être mélangé. Et donc, ça donne une spécificité toujours un petit peu plus quand on est chez les petits. Et c'est ce qui est
en train de se si l'entreprise doit sortir beaucoup, beaucoup de volume et vendre énormément, elle est obligée aussi de standardiser beaucoup et peut-être
c'est
de lisser.
C'est le champagne. Hein. C'est comme ça à la base que le champagne a été fait. Il faut savoir que le champagne, pour faire du champagne, on va prendre 50% de jus qui est donc ce qu'on appelle de la réserve, qui est un mélange de jus, et 50% de la nouvelle année en cours pour faire la bouteille. Et donc, quand on récolte le raisin, justement, on prend donc 50% du raisin pour faire le champagne, qui va mettre 2 ans à être fait. Et donc, les fameux 50%, on les remet dans la fameuse réserve. Ce qui fait que ça standardise le goût. On se retrouve avec un goût à 50% toujours homogène, ou qui va évoluer très progressivement avec le temps.
D'accord, je comprends.
C'est pour ça, encore une petite astuce dans le champagne, pour ceux qui sont amateurs de champagne, même si l'alcool est à consommer avec modération, vaut mieux acheter un millésime, par exemple, parce qu'un millésime, ça va être une seule année. Donc, on va retrouver vraiment l'impact qu'il va y avoir de l'année. Puisque dans toutes les plantes, suivant l'ensoleillement, suivant le terrain, on va changer les goûts. On va changer, c'est pour ça qu'on fait des appellations d'origine protégée pour que ça soit le champagne ou alors même les fromages et autres. C'est parce que chaque spécificité de terre va amener un goût. Et ça, c'est dû à la vie du sol principalement.
Je pense qu'on en reparlera parce que j'ai une question directement liée avec l'industrie du cannabis. Mais je pense qu'on en reparlera à la fin quand on parlera de l'évolution justement de la plante.
C'est pas un souci.
Et sa spécialisation. Donc du coup, pour revenir au tour d'horizon du cannabis dans le monde, donc le Canada.
On est dans un système évidemment très industrialisé, on va dire. La production personnelle est vraiment mise de côté. On est sur du professionnalisme évidemment à chaque fois au Canada. Aux États-Unis, on a un peu le même principe, et ça va vraiment dépendre d'un État à un autre, hein, puisque comme ils fonctionnent avec des lois aux États-Unis qui vont être vraiment indépendantes plus ou moins d'un État à un autre, on a des États où il y a beaucoup de choses qui sont autorisées. Ça va être de la culture à la production, à la vente, à même à la fabrication de bonbons et autres, qui va être juste autorisé à l'intérieur de l'État, mais pas qui va pas avoir le droit de passer la frontière, par exemple. Même si il faut savoir qu'il y a beaucoup d'États où la légalisation est mise en place, l'État d'à côté, même s'il a légalisé, le passage de frontière est interdit. Parce que c'est vraiment chaque État qui fait son truc à lui. Donc, il va y avoir vraiment des différences d'un État à un autre. Mais on retrouve un peu tout, hein. On retrouve de la prohibition, hein, dans certains États, comme on retrouve de la légalisation totale. Après, quand on va descendre vers les pays d'Amérique du Sud, c'est moi, je trouve, la meilleure vision de la plante. Puisqu'ils ont une vision très ouverte de la plante. C'est-à-dire que, à l'inverse, avec les pays comme le Canada ou même l'Europe, quand on essaye de faire un médicament, on va essayer de chercher le principe actif qu'il y a dans la plante et on va l'extraire et on va dire c'est telle molécule plus telle molécule, faut donner ça. Des pays comme l'Uruguay, ils ont légalisé, mais ils ont aussi fait une partie médicale avec des variétés bien spécifiques pour tel type de maladie, tel type de maladie et tel type de maladie. Ils en ont trois, je crois, de souvenirs, de mémoire. Et ça permet, ils ont fait des études, évidemment, en interne, hein, pour savoir ce qui était le mieux, par exemple, pour les douleurs neuropathiques et les douleurs du dos. Je sais qu'il y a une variété qui est beaucoup plus là-dessus. Il y a une variété qui est beaucoup plus pour tout ce qui va être les gens qui sont atteints de cancer et plusieurs autres maladies. Et après, on va être beaucoup sur une autre variété, je me rappelle, qui est plus pour tout ce qui est intestinal et autres. Puisqu'ils se sont rendus compte que c'est un peu comme pour tout, on a tellement de principes actifs dans le cannabis, tellement de cannabinoïdes, on en connaît tellement peu sur les cannabinoïdes que c'est un mélange des cannabinoïdes et des odeurs qui sont produites par le cannabis qui vont donner un effet sur le corps humain. Étant donné qu'on a nos propres récepteurs endocannabinoïdes, la première chose, elle est là. Faut pas oublier qu'on a des récepteurs naturels. Donc, vu qu'on a nos récepteurs naturels, il agit sur nous vraiment énormément, le cannabis. Que ça soit, chaque cannabinoïde va agir différemment et chaque terpènes, les odeurs, vont aussi agir. Comme en aromathérapie, l'aromathérapie, c'est la même chose. Si on utilise l'odeur pour se soigner, et l'aromathérapie du cannabis, elle fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le limonène va ouvrir certains types de récepteurs, le myrcène d'autres, ainsi de suite. C'est ce que l'Uruguay et l'Amérique du Sud a beaucoup vu, c'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup sur ce principe-là d'avoir dit c'est la plante au complet, c'est des telles variétés qui va être intéressante. Au niveau de la légalisation, il y a des pays où c'est qu'on a le droit, il y a le droit jusqu'à 11 plantes, suivant si c'est récréatif, on a le droit limite à moins de plantes, et si c'est médical, à plus de plantes. Après, on a, c'est un peu tous les pays d'Amérique du Sud qui sont comme sur cette voie-là, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus, on va retrouver ça. Nous en Europe, justement, on va avoir l'agence du médicament qui va gérer un peu tous les produits. Aux États-Unis, on va avoir la FDA qui va avoir une grosse influence sur le Canada. En Amérique du Sud, ils ont un peu chacun leur propre petit système. Et pareil en Thaïlande, la légalisation qui est arrivée en Thaïlande, même si là ils sont revenus un peu en arrière.
Pour terminer avec le continent d'Amérique du Sud, donc l'Uruguay qui a légalisé, et tu viens d'en parler, est-ce qu'il y a aussi la Colombie où c'est bien engagé?
Alors non, la Colombie, il faut savoir qu'il y a des pays comme la Colombie où il y a très 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 longtemps que la décriminalisation, enfin la dépénalisation a été mise en place. En Colombie, si de mémoire, c'est 1986. 1986, la dépénalisation, ils ont le droit à 20 plantes, 20 grammes sur eux, et ça doit être 12 plantes.
Ok.
Ça, c'est depuis 1986. Mais la vente reste interdite. À l'heure actuelle, si on parle de commerce, au niveau du commerce, seul le CBD est autorisé.
Ok, super intéressant. Et pour les autres pays d'Amérique du Sud, t'as des...
Alors, le Pérou, pareil. Alors, il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud, il faut savoir qu'on légalisé le médical, déjà de base, depuis très longtemps. Ça, c'est ils ont pas la même vision que nous de la médecine, déjà de base. Nous, on a, comme je te disais, cette médecine très moléculaire, très médecin et autres. Faut pas oublier qu'il y a cette médecine beaucoup ancestrale avec les plantes et autres. Donc, l'usage des plantes est resté très... C'est un truc sacré, on va dire. Ils y touchent pas. Il y a que quand il y a les pressions des autres pays, comme ça a fait en 1970, avec la pression des États-Unis pour mettre en place la prohibition de toutes les autres drogues, la cocaïne et autres. Là, c'est... Voilà. Mais sinon, en interne, en général, ils ont une vision de la plante qui est quand même assez... vraiment différente de nous. Ce rapport à la nature est quand même beaucoup plus intéressant dans des pays d'Amérique du Sud que dans nos pays, nous, occidentaux. C'est vraiment différent. Après, sinon, on a des pays comme le Japon. Le Japon, eux, c'est un peu spécifique. Le Japon, ils sont beaucoup CBD. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens disent « Oh là là, attention, le Japon, c'est super, super restrictif.
» Oui, c'est l'image qu'on en a.
Pardon ?
En tout cas, c'est vrai que c'est l'image qu'on en a.
Non. Alors, pour ce qui est du CBD, il y a des cultures de CBD, il y a de l'alimentation qui est faite au CBD. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour la légalisation des médecins, pour la légalisation du cannabis. Ils en sont au CBD. Avec une approche quand même assez ouverte du CBD, assez ouverte. On va dire, on va retrouver un peu l'esprit à la française.
Ok, d'accord.
Pour ce qui est des pays, d'Indonésie, tout ce qui est l'Indonésie, la Thaïlande est en train de voir vraiment. Le problème qu'ils ont eu avec la Thaïlande au démarrage, avec la légalisation, c'est qu'il y a eu beaucoup de touristes, un tourisme de masse, et c'est ce qui a fait blocage. C'est ce que là ils sont en train de revoir un peu le système de loi justement. J'ai pas regardé depuis un mois et demi, deux mois ce que ça a donné. Donc je vais pas être précis exactement là-dessus. J'ai des gens qui sont là-haut, mais là ça fait un petit bout de temps que j'ai pas parlé avec eux, donc je peux pas trop savoir.
Ok.
Et après, si on se rapproche de nous, t'as les pays africains où tu vas avoir vraiment une vision très différente d'un pays à un autre. Tu prends le Maroc avec sa légalisation. Le Maroc, il a légalisé, mais il a légalisé la production. Après, pour le reste, il n'y a rien, c'est du flou. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, oui, c'est un peu, pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Puisque les zones qui produisaient, produisent déjà, il n'y a pas eu un grand changement, on va dire. Le bouleversement que les gens disaient, tiens, quand le Maroc va légaliser, ça va être un truc phénoménal, non. C'est pas pour autant que ça a fait ce boom. La France, je me rappelle des discours des années 2000, hein, quand le Maroc en parlait déjà, et c'était vraiment, oh là là, c'était Sarkozy qui avait été voir le roi du Maroc, hein, pour dire, ah non, faut pas, parce que sinon la jeunesse, elle va être envahie. Mmh. Ils ont légalisé. C'est dans les pays, de toute façon.
C'est pas clair du tout sur la suite.
Ouais, voilà. Il y a une différence entre. Il faut toujours voir la différence entre ce qui va être la légalisation du produit, la légalisation de la production, la légalisation de la transformation. Et le cannabis, à l'heure actuelle, il y a très peu de pays où on autorise tout, justement. La FDA, si on prend la FDA aux États-Unis. C'est vraiment l'organisme qui va chapeauter comme nous l'organisme de...
Attends, on va en parler juste après. Je pense qu'on termine le tour du monde.
Ouais.
Et après, c'est le sujet super important dont on va parler, cette idée, donc on en parlera juste après. Pour rester en Afrique, si on part du nord pour aller jusqu'au sud, jusqu'en Afrique du Sud.
Alors, en Afrique du Sud, on va retrouver cette culture du cannabis, hein, qui est très, très, très implantée en Amérique du Sud. Hein. J'ai quelques amis qui sont sur Johannesburg et vraiment, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ils sont encore pas au point de légaliser. Je pense que c'est comme tout. Il y a cette attache avec le continent américain qui reste très forte, même quoi qu'on en dise. Et tant que, justement, on va pas avoir une légalisation complète aux États-Unis, au niveau fédéral, eux n'avanceront pas. C'est vraiment là, hein. De toute façon, le point, il est là, hein. C'est comme pour tout, c'est comme quand on voit là, avec la guerre en Ukraine, quand on voit avec partout, c'est, ils disent, et ça fait boule de neige.
Mais écoute, ouais, on termine le tour du monde et après on embraye sur ce sujet-là.
Ouais. Après, de quel autre pays je peux te parler? Je peux te parler un peu des pays comme l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est des pays, maintenant, en plus, avec le Brexit, ça peut être intéressant pour eux. Je pense qu'ils vont vraiment avancer à ce niveau-là depuis qu'ils sont sortis de l'Europe. Je pense que ça va être aussi un autre pays qui va vraiment avancer assez rapidement, puisqu'il y avait un système où en Angleterre, tu pouvais faire des confiseries. Tu n'avais pas le droit. Il y a eu une époque, tu voyais fleurir des confiseries au THC, légalement, on va dire, un peu comme certains, enfin légalement, non interdites, on va dire. Comme certaines molécules le sont, l'étaient jusqu'à peu de temps, comme le HHC, qui était une belle saloperie, que heureusement qu'on a interdit, comme toutes les molécules, les cannabinoïdes de synthèse qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. C'est toutes des molécules qui sont de synthèse, et toute molécule de synthèse a une durée de vie qui est différente de la durée de vie dans la nature, déjà. Ça, c'est scientifiquement prouvé, une molécule synthétisée, déjà de base. Si on prend son analogue naturel, elle va jamais fonctionner pareil. Pourtant, on pourrait dire que c'est une molécule.
Faisons une parenthèse justement sur les cannabinoïdes de synthèse.
Bien sûr.
Parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est très rare d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Quand on dit que, par principe, cannabinoïdes de synthèse est forcément moins bien qu'un les cannabinoïdes naturels, ça c'est sûr. C'est une question. Est-ce que ça c'est sûr?
Non, 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 bien sûr que non. Moins bien, non, parce que je veux pas dire, j'ai jamais dit, c'est comme tout, c'est une molécule de synthèse. C'est pas qu'elle va être moins bien, obligatoirement. Elle peut, ça se trouve, on va découvrir des cannabinoïdes de synthèse qu'on va réussir à synthétiser, qui vont avoir, je vais dire une bêtise, le potentiel de pouvoir te faire un high que tu contrôles. Enfin, je dis une connerie, mais tu vois ce que je veux dire. On pourrait, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais ça reste des choses synthétisées. Si on prend l'exemple du HHC, beaucoup de gens croient que c'est déjà un dérivé du chanvre. À la base, oui. La première fois qu'il a été synthétisé, oui. parce que c'était simple de partir de la molécule, tac, tac, tac. Mais à l'heure actuelle, le HHC qui est sprayé et compagnie, il n'est même pas issu du chanvre. C'est de la synthétisation complète.
Ah, d'accord.
Alors, mais par contre, oui, hein, à l'origine, on peut le synthétiser, on peut le modifier des cannabinoïdes du chanvre. C'est comme ça qu'il a été fait. Il y a eu beaucoup de cannabinoïdes qui ont été synthétisés, on va dire, la première fois, parce que on peut dériver de la molécule de base, la modifier légèrement, et arriver à une autre. Mais les petits Chinois, les petits Chinois, c'est eux qui ont le marché de la synthétisation de toutes les molécules. Eux, ils partent absolument pas du chanvre. Hein. Ils vont pas s'amuser à acheter de l'isola pour créer après du HHC. Hein. Absolument pas. Hein. Eux, c'est chimique, chimique, chimique. Hein. Point. Donc, toutes les molécules de synthèse sont totalement chimiques. Maintenant, on n'a aucun recul. Aucun recul. C'est comme une nouvelle molécule. Ça reste une nouvelle drogue, même si c'est un cannabinoïde. On a les récepteurs pour, ouais, mais il peut faire d'autres effets aussi, justement, qui peuvent être mauvais. Et ça, on n'en sait rien encore. On n'a aucun recul. Les gens, c'est leur seul moyen à l'heure actuelle d'avoir un height, d'avoir l'effet récréatif, on va dire. Ils disent, bon, je vais au CBD shop, je prends une fleur qui est sprayée, et puis voilà, je vais fumer ça.
Mais déjà, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. En fait, il n'existe aucune fleur avec n'importe quelle molécule de synthèse ou d'origine naturelle. C'est-à-dire que forcément la fleur,
elle est sprayée.
Fleur qui a été rabaissée pour qu'il n'y ait aucun doute, et après qui est sprayée avec la molécule de synthèse. Donc en fait,
c'est aussi un premier grand point que tu viens de parler, c'est les gens qui lavent les fleurs. Le lavage des fleurs, c'est déjà un premier processus que les gens devraient être informés de base. De base, puisqu'on va utiliser des produits chimiques. Parce que les fleurs, il y a certaines fleurs de chanvre, de CBD qui vont être un peu trop hautes en THC. Et donc, pour les rabaisser au niveau légal, ils vont les passer avec des produits chimiques pour enlever le THC. Mais déjà là, on a déjà passé avec un produit chimique sur la plante.
Bah, il y a aussi un moyen mécanique de les rabaisser.
Ouais. Quand on fait... mécanique, mais là, c'est différent. C'est priver la personne du potentiel, puisque c'est carrément la résine. Tu vas enlever la bulle de résine, tu vas laisser le pied. Les cannabinoïdes sont souvent pas les mêmes dans la bulle de résine que dans le pied. Donc, tu vas aussi justement changer les taux de tout, quoi. C'est enlever des principes actifs pour moi à la plante. Mais bon, la plupart du temps, elles sont lavées, et puis souvent après reterpénisées, c'est-à-dire qu'ils vont resprayer des terpènes dessus. Puis avec, on met du HHC. On sait pas combien il y en a, s'il y en a un qui a eu la main lourde, qui est sur une tête, tant pis, qui vivra verra, celui qui la fumera, tant pis pour lui. C'est ça le problème. À l'heure actuelle, il est là, c'est que on n'a aucun recul sur ces produits-là, c'est fait à l'arrache, c'est mis à l'arrache. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui veulent fumer ça. Je préfère encore, tu vois, aller sur un marché noir, acheter un bout de shit, désolé de dire ça, dans une cité, que de fumer du HHC. Après, il faut être sûr du shit aussi, parce que justement, maintenant, on fait des shit ou HHC.
C'est dingue. La
dernière cannabis, il y avait des magnifiques HHC.
Le marché légal. Ouais.
Ah, ils étaient magnifiques. Mais tu les voyais, ils sentaient bon, hein, magnifiques. Il y avait version pollen, version gras, version mousseux, et tous au HHC. Mais le problème, il est là, c'est que. Alors, il faut déjà trouver un système pour contrôler simplement les produits. La Suisse, elle y arrive. La Suisse, elle a un produit, elle a un spray. Elle spray directement, tu vois si c'est du THC ou du CBD. Il y a des machines qui existent pour les magasins. Je vois par exemple ici les clubs, pour pas se faire avoir avec du CBD sprayé.
Tu dis ici, c'est en Espagne.
Pardon ?
Quand tu dis ici, c'est en Espagne.
Ici en Espagne, voilà, okay. dans les clubs, ils ont des machines. Tu prends un gramme de weed, tu la green, tu la mets dedans, pouf, ça te dit si le taux de THC. Mais si t'as une bœuf qui te fait de l'effet et puis que tu vois marqué zéro dans le taux de THC et puis que c'est que du CBD, elle est sprayée, quoi. Même si c'est une machine, on va dire, qui te donne une lecture simplifiée du truc, tu vois si elle a été modifiée, quoi. Ça devrait être des choses déjà impératives, je comprends même pas qu'il y ait des gens qui achètent sans refaire de contre-analyse, par exemple. Tu vois, les magasins. Parce qu'il y a aussi bien des gens honnêtes que des gens malhonnêtes. Tu as des gens, ils vont te vendre des weeds. Ils savent très bien qu'une weed qui va être sprayée au HHC, elle va se vendre un peu mieux dans le magasin. enfin, HHC ou d'autres molécules, hein. À l'heure actuelle, on a interdit le HHC, mais il y en a d'autres, hein. Et il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché, évidemment, hein. On est, c'est l'éternelle course entre les chimistes et la loi.
Et donc, eh ben, on aura écoute, toujours... Merci beaucoup d'en avoir parlé. Donc, en fait, pour résumer un peu, c'est un cannabis de synthèse par nature n'est ni mauvais ni bon. Par contre, on n'a pas de recul dessus.
Ouais.
Et par contre aussi, ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que tu serais d'accord. Par contre, en tout cas en France, c'est très souvent, j'ai envie de dire, mal vendu dans le sens où le discours est pas clair sur ce que tu achètes. Tu as une fleur gelato naturelle HHC. Alors que tu mets les quatre mots ensemble qui, voilà, qui...
Bon. Bah, déjà, trouver de la gelato CBD...
Oui, voilà, c'est ça, c'est...
Faut pas oublier que la plupart des gens, ce qu'ils fument, c'est de la Compoli, c'est... Enfin, voilà, quoi. À la base, maintenant, ça change. Depuis cette année, l'année dernière, ça change. Mais avant, c'était... tout le monde faisait la même variété et puis, bah, donnait les noms qu'il voulait, quoi. Donc ça aussi, c'est un autre problème, c'est que l'information, elle est très mauvaise puisque on n'a pas su mettre des lois précises. Tant que tu mets pas des lois précises, il y aura toujours des petits joueurs pour aller au-delà de la loi.
Bien sûr. T'as ceux qui vont encadrement par la loi et
ouais. Il faut des lois dans tout système. Il faut des lois parce que justement, ça évite l'abus. Ça évite l'abus. Quand on voit l'abus qu'il y a avec les fleurs sprayées, les molécules de synthèse et compagnie. Ça habitue quoi ? Ça habitue juste la personne à se dire « Ouais, bah, j'aime bien ce qui est de synthèse. » Après, c'est, on dit, il y a eu la légende de la porte d'entrée du cannabis qui est totalement fausse, qu'on disait « Ah, c'est qui fume un joint, l'adage du « qui fume un joint le lundi se shootera à l'héroïne le vendredi. » Ça, c'était les années 70, ça a été démonté, redémonté, redémonté. Mais là, on pourrait presque avoir ça avec le système de synthèse, quoi, parce que les gens, ils vont se dire, ah, je suis prêt à prendre des trucs de synthèse, j'en ai rien à foutre, quoi. Je vais sur le net, ah bah ils ont pas ça, qu'est-ce que je peux trouver ? Ah, 3MMC, oh bah ça ressemble à de la coke. Allez, pareil. On s'en fout. Le problème, il est là, c'est que les gens, on vit dans une société où tout va rapidement, et que si tu donnes pas un cadre net, il y a l'abus. Il y a l'abus automatiquement qui se met en place. Et le cannabis. Naturellement, on a tellement de recul, tellement d'années de recul, tellement. Pourquoi continuer à l'interdire ? C'est pour ça que t'as beaucoup de pays maintenant qui sont de plus en plus en train d'avancer. Bon, faut pas, c'est qu'un éternel recommencement. C'était. Faut pas oublier le pourquoi on l'a interdit. J'en avais parlé dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble de souvenirs. Pour les gens qui n'ont pas vu, ils peuvent aller voir. On avait fait un premier épisode où j'en parle un peu de l'histoire de la légalisation. De la pénalisation du cannabis, qui a été l'histoire de la pénalisation de toutes les drogues, en fait, hein, puisque ça a continué quand on voit avec les hallucinogènes. On a un grand retour en ce moment de toutes les molécules hallucinogènes aux États-Unis. C'est ni plus ni moins parce qu'entre 1950 et 1970, ils avaient fait une énorme avancée, des énormes avancées sur ces molécules-là pour des traitements médicaux, hein, bien évidemment. On parle de traitements médicaux à ce moment-là. Et aussi bien d'avancer. Moi, je me rappelle de l'expérience qu'ils ont fait dans les années 50 avec les scientifiques. Ils avaient demandé à 17 de mémoire scientifiques, architectes et autres de venir. Je crois que j'en avais pas parlé dans le premier épisode qu'on a fait. Ils avaient demandé, de mémoire, c'est 17, mais je suis pas sûr du chiffre. Architectes, mathématiciens, physiciens et autres qui avaient un problème et qui butaient sur un problème depuis plus de 3 mois. Et ils leur ont fait faire une expérience psychédélique au LSD, contrôlée avec des gens, enfin avec des médecins autour et autres. Ben, la plupart, ils ont trouvé une solution à leur problème, qu'ils avaient depuis plus de 3 mois, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, dans chacun de leurs domaines, et dans des domaines bien... Donc, on est en train de redécouvrir les molécules justement psychédéliques pour aider les personnes, justement des problèmes, personnes qui vont avoir des troubles, qui ont été agressées, violées, qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, énormément. On est en train de redécouvrir toutes ces molécules-là. C'est un éternel recommencement, l'histoire. Là, maintenant, on est en train de revenir juste... On est au début, il y a des freins de tous les côtés, mais quand l'information sera complètement passée... Bah, on va redécouvrir le cannabis. Point. C'était une des molécules les plus utilisées dans les années 1850. C'était, je sais plus combien de pourcents de la pharmacopée, mais plus de 50% de la pharmacopée était faite à base de cannabis. Il y a au musée du cannabis, par exemple, à Barcelone, il y a le musée du chanvre. qui est vraiment magnifique à voir. Il y a des salles qui sont consacrées à toutes les parties, vraiment, que ce soit la partie la voile, l'avantage du chanvre, enfin toute l'histoire du chanvre, vraiment dans la voiture et autres. Et il y a aussi toutes ces parties-là, quoi. La pharmacopée avec toutes les vieilles bouteilles qui étaient de cannabis, à base de cannabis. C'est un éternel recommencement. On y arrivera progressivement.
Et ben ça, on est en train de comme tu disais, on le voit dans le monde, ça va pas à la même vitesse partout, mais donc là, on s'est arrêté sur l'Angleterre. Encore plus proche de nous, il y a l'Allemagne.
Ouais, l'Allemagne. Alors là, j'ai bien aimé le système allemand. En plus, le système de taxation est pas mal. C'est-à-dire qu'ils vont taxer le pourcentage de THC. Le système de taxation, au moins, il est simple. Il est très simple. Parce que le problème qu'il y a eu aux États-Unis. Attends, que je confonde pas, c'est aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis. Si je prends en Oregon, les taxes. Mais dès que tu utilises le produit, t'es retaxé de la même façon qu'à la base.
Ok.
Donc c'est de la folie, quoi. Ça devient de la folie. À la fin, ça devient de la folie. Si tu retransformes plusieurs fois le produit, ça devient de la folie. Là, le système, basé ni plus ni moins sur le THC, analyse à l'appui, pouf, hop, tant de pourcents, un pourcentage. Je vais pas dire qu'il est régulier sur chaque pourcent, puisqu'il y a aussi une augmentation suivant le pourcentage, mais ça permet d'avoir des produits facilement taxés, sans avoir à revenir dessus, de dire faire des exceptions ou autre. Poum, c'est simple. Ça va rentrer dans les caisses de l'État. Ils savent déjà, à la fin de l'année, s'il y a eu tant de ventes, bam, on sait qu'il y a ça qui est rentré. C'est un système, mais ultra simple. La France, elle va avoir tendance, le jour où elle va légaliser, elle va faire un système bureaucratique derrière qui va être infernal à calculer pour les gens. Comme ça fait aux États-Unis, c'est sûr.
On l'espère pas.
J'aimerais bien. Elle va y arriver, hein. De toute façon, avec la pression des autres pays, ça va monter en flèche, hein. On est au bord du moment justement où on va avoir un changement, où on va pouvoir dire ça y est, on peut utiliser le cannabis partout, en alimentation et autres. On est à ça, quoi. On est au bord. Et quand ça va être lâché, c'est l'explosion.
Écoute, on va y arriver à cette bascule justement, même dans la discussion. Et donc en Allemagne, en fait, ils voulaient faire plus. Finalement, ça n'a pas été possible.
Comment ça ?
De ce que j'ai compris, ils voulaient légaliser totalement sur un modèle très très libre. Ouais. Et finalement, c'est l'Europe qui a dit que certaines règles ne passeraient pas.
Oui. Pour qu'à l'heure actuelle, il leur fallait absolument qu'ils fassent un système de club. Voilà, club, coffee shop, on va dire, on l'appelle comme on veut. Hein. Dans un club, il va y avoir si on prend la version espagnole, c'est une version très sociale, avec un système de membres où une personne nouvelle doit être obligatoirement accompagnée avec un ancien membre. Système de parrainage, on va dire, pour éviter, on va dire, ça évite aussi les problèmes. Ça permet de dire, je suis responsable d'avoir emmené quelqu'un, quoi. La personne, tu ne vas pas emmener n'importe qui. Donc, ça permet d'avoir cette bonne ambiance aussi dans les clubs. C'est pour ça que le côté espagnol, il m'a toujours bien plu pour ça, c'est ce côté social. Quand on compare avec le système hollandais, avec le système de coffee shop, qui ressemble beaucoup plus à un bar, hein, ni plus ni moins à un bar, où c'est que tu vas, tu consommes même au bar, ta weed, et puis hop, tu bois ton café si t'as envie, tu t'en vas. C'est impersonnel. Je dirais, ça me fait penser presque, je vais exagérer, mais aux salles de shoot pour les heroinomans, quoi. C'est tu vas dans ton endroit pour pouvoir fumer. Il y a que là que tu as le droit. Et après, tu sors, faut que tu n'aies plus rien. Faut que tu sois clean. Système-là, c'est un peu lourd psychologiquement aussi pour les gens. Et puis, il y a ce regard des autres. Quand tu vas dans les clubs, quand ça reste un club privé, comme ça fait en Espagne, il y a le regard des autres, dire « Oh, bah, il va au club ». Je dirais, c'est presque comme aller voir les prostituées pour certains dans la tête. Il va au club de cannabis, quoi. Il y a encore ce regard pour l'instant. Dans un café, tu ne vas pas l'avoir. Les gens, ils vont boire un café, ils vont dans un café, tu ne rentres pas dans un café, la personne ne va pas se dire « Oh, elle va se mettre la tête à l'envers à l'alcool
ouais. ».
Tu ne dis pas ça. Alors que le regard des gens, il est tout de suite, quand ils vont dans un club, « Ah, bah, il va se mettre la tête à l'envers dans un club ». Que ce soit les Espagnols hein, qui ne consomment pas, que les gens qui ne consomment pas autres. Non, les gens, ils vont dans les clubs comme tout le monde, comme les gens qui vont aussi dans un bar, hein, pareil, ils peuvent y aller en fumant très peu ou en étant habitués à fumer quelque chose qui leur va pas leur faire d'effet, à discuter, passer un bon moment, quoi. Le but, c'est, il est là, surtout. Il est là. Donc, le système allemand, il va essayer de faire un peu un mix au niveau de l'intérieur des clubs, d'après ce que j'ai compris, de rendre le truc un peu social, pas trop comme la Hollande, quoi, de ce qu'on m'a expliqué. Donc, okay, ça va être assez intéressant à voir. La mise en place.
En Espagne, ça évolue en ce moment.
Pardon ?
En Espagne, tu me disais que ça évolue en ce moment.
Alors ouais, en Espagne, c'est vraiment les élections là. Hein. C'est-à-dire qu'on a été. Alors malheureusement, oui et non, c'est toute affaire de goût. Jusque-là, on croyait que la légalisation, comme partout, arriverait par la gauche. Dans beaucoup de pays, c'est ça. Et donc les mouvements qui s'étaient mis en place en Espagne étaient des mouvements de gauche pour la légalisation souvent. Et là, il y a eu un retournement de situation presque, parce que là, la droite parle de vouloir légaliser et elle arrive au pouvoir, je vois à Barcelone, par exemple. Et elle arrive au pouvoir vraiment, elle investit l'Espagne, hein, la droite et l'extrême droite en ce moment. Hein. Il y a un regain, un peu comme dans beaucoup de pays, malheureusement. Hein. Plus tu isoles les gens, plus tu les radicalises. On vit dans une société où on isole de plus en plus les gens, que ce soit par le téléphone, par la façon de vivre, par les lois. Donc, on radicalise les gens inconsciemment. Et on arrive de plus en plus à un extrême. Donc, extrême droite, extrême gauche. Et donc, bah, c'est ce qui arrive de plus en plus dans tous les pays. Et donc, il y a un projet de loi de légalisation. Puisqu'on est, on est tellement dans un flou ici en Espagne qu'il faut faire quelque chose. Entre les clubs qui sont légaux, mais pas légaux, c'est-à-dire que voilà, ils sont tellement entre deux qu'il faut faire quelque chose. Ils sont obligés. Alors il y a quelque temps, ils voulaient arrêter tous les clubs. Ils ont fait une loi qui a été qui a essayé d'arrêter tous les clubs, sauf ceux qui avaient. Et puis là, tout de suite, ils se sont rendus compte qu'il y a un avocat qui avait démontré que ben non, ceux qui sont depuis 2016, vous pouvez pas. C'est vous qui avez donné la licence. Faut que vous passiez par le tribunal pour enlever la licence. Bon, on va fermer les autres. Il y a eu ce système-là déjà de mis en place. Donc, ça, hop, il y en a qui ont soufflé, qui se sont dit non, c'est bon, nous, on est tranquille, ainsi de suite. Mais bon. Et puis là, maintenant, tout le monde recommence à souffler un peu plus en disant, bah, peut-être qu'il y a un projet qui va arriver là. Et puis, il y a ce rapport entre l'Espagne. L'Espagne, elle a beau être en Europe, elle est très proche. La conquête de Christophe Colomb, elle a laissé énormément de traces hein, en Espagne. Il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Amérique du Sud en Espagne, puisqu'il y a cette langue espagnole qui est commune. Donc, il y a cette culture commune un peu avec l'Amérique du Sud. Les gens, quand ils regardent la télé, ils peuvent regarder aussi bien la télé espagnole que la télé chilienne, que la télé colombienne, que la télé... quand tu recherches une loi spécifique, chaque fois, tu dis « Ouh là là !» Ah, puis tu cherches « Ah ben non, fou, c'est pas dans ce pays-là, c'est dans un autre pays. » Je veux dire, c'est très, très...
Il y a une connexion il y a une relation très forte.
Okay. Ouais. Donc, quand ça bouge, étant donné que c'est en train de bouger beaucoup aussi en Amérique du Sud, ça fait bouger aussi les choses ici. Même s'ils attendent que l'Europe et à chaque fois que c'est la France qui fasse quelque chose, quand la France fait quelque chose, l'Espagne le fait, aussitôt. On est en Europe, hein, ça se passe comme ça. Ça ne sera pas l'Espagne qui va légaliser en premier, entre la France et l'Espagne. L'Espagne, pour l'instant, elle restera sur ce système-là. Mais ça bouge tellement dans tous les pays que moi, je pense qu'on est très proche d'une légalisation en France quand même. Hein. On est maintenant, je compterai les années sur le bout de mes doigts. Que ça fait 20 ans. Bon, il y a 20 ans, je disais ça aussi, mais j'ai eu vite fait de déchanter quand je suis rentré dans le monde du cannabis et comprendre comment c'était, puis de comprendre comment ça se passait au niveau des lois et autres.
Eh bien, justement, allons-y, sautons dedans pieds joints.
Ouais.
Donc, en fait... C'est ce que tu m'expliquais un peu en off. Tout partirait, en tout cas, les changements de loi aux États-Unis de ce qu'on appelle DA. Oui. C'est ça qui mettrait l'étincelle, en fait.
Oui, parce que c'est la FDA aux États-Unis, c'est quand même c'est l'organisme qui gère l'alimentation, les médicaments, la mise sur le marché de tous les produits. Nous, on a la même chose en Europe, hein, évidemment. C'est l'AEME, l'Agence européenne du médicament. C'est elle qui gère tout ça. Mais le pouvoir, déjà, ils n'ont pas la même définition. Lorsqu'il y a des tests, il y a une maladie grave chez l'un, c'est 10 000, chez l'autre, c'est 200 000. Enfin, une maladie rare, pas grave, rare. Enfin, c'est. Mais quand il y a réunion entre les deux, celui qui a le pouvoir, c'est toujours la FDA. On va dire que c'est quand même elle qui est un peu au-dessus de tout le monde à ce niveau-là.
Ok, d'accord.
Il y en a un peu dans tous les pays. Par exemple, quand on prend la légalisation en Thaïlande, l'organisme d'État indonésien a dit « c'est bon, on fait l'alimentation aussi ». C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire toute, c'est légal là-haut totalement l'alimentation. C'est pas juste sur le petit territoire, c'est de toute l'Indonésie, c'est, enfin, c'est la Thaïlande, c'est faire de l'alimentation au cannabis est totalement légal.
Oui, parce que FDA, parce qu'en réalité, c'est food, donc food alimentation.
Food, drug, administration.
Administration. Donc il y a l'alimentation et la partie aussi drogue, selon comment on l'entend, ouais, stupéfiant. Bah,
c'est qu'ils ont une autre définition de drogue aux États-Unis. Drogue aux États-Unis, c'est toute alimentation, enfin toute molécule presque, on pourrait dire.
Ouais, parce tout que ce qui est psychoactif, va, tout ce qui est. Ouais.
C'est nous, la notion de drogue, elle s'arrête aux drogues, mais eux, ça va être aussi les médicaments, les drogues. Donc ça change beaucoup de choses, et donc comme c'est l'organisme qui chapeaute vraiment, qui est au-dessus, même au niveau fédéral, c'est pour ça qu'il y a encore des problèmes au niveau de la légalisation, que certains États n'ont pas légalisé. C'est que tant qu'il n'y a pas ce consensus au niveau de la FDA, qui elle, à l'heure actuelle, il faut bien savoir, interdit tout produit à base de cannabis, tout, que ça soit cannabis ou chanvre. Le seul produit qu'elle autorise, c'est l'épilodex, c'est un médicament. C'est le seul et unique à l'heure actuelle. Tant que eux ne changent pas, on n'aura pas l'AEME qui va changer aussi. À partir du moment où on va autoriser, ne serait-ce que l'ingestion de chanvre, c'est autoriser l'ingestion de cannabinoïdes. À partir de là, la légalisation aux États-Unis se met en place, la légalisation après en Europe se met en place dans tous les pays. Mais pas avant. On est obligé puisque c'est eux qui chapeautent tout.
C'est marrant parce que ça veut dire que si ça se trouve, ce qu'on appelle en France le chanvre industriel, si ça se trouve, c'est le chanvre industriel qui va prendre la tête de la légalisation. Et ce sera les graines décortiquées et lui l'aliment.
Eh ben non, justement, ben voilà, parce que la FDA elle a bien su séparer tout ça dès le début. Okay,
d'accord.
Dès le début, la FDA, elle a, toute partie de la plante sont interdites à la consommation, sauf les graines.
Sauf les graines, ok.
Ils ont pas utilisé dès le début. Hein. Ils ont été non, ça viendra pas de là. C'est pour ça que toutes les autres utilisations qu'on a du chanvre à l'heure actuelle, normalement, sont illégales pour ce qui est de l'alimentation. Quand on voit tout ce qui va dans l'alimentation avec du chanvre. Est légalement, enfin, n'est pas légal. Et
en dehors de graines, farine, huile, donc tout ce qui est gummies, tout ce qui est infusion, enfin.
Dès l'instant, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même en France, hein, les pharmaciens sont quand même assez, justement, sont très calés à ce niveau-là. Ils sont très calés. C'est eux, ce qui chapeaute aussi tout ça. Hein. Même en France, tu ne verras pas d'huile full spectrum. En pharmacie, où la personne, elle sait qu'elle prend un risque. Tu vas retrouver en pharmacie des huiles issues de graines. Alors, c'est une vraie arnaque, puisque les gens qui prennent ça, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de CBD du tout dedans. Mais c'est la seule chose qu'ils ont le droit de vendre, légalement.
En fait, c'est de l'huile alimentaire, c'est de l'huile...
C'est de l'huile alimentaire qui est mise dans un petit flacon de 10 ml et que tu payes une fortune, alors que si tu l'achètes au litre, tu ne la payes rien, quoi.
Ouais, d'accord, ok.
Mais c'est leur seul moyen d'être légal, parce qu'eux, ils en ont conscience. Ils ont conscience que s'ils vendent un full spectrum, ils sont hors la loi, leur licence peut être enlevée, tu vois, enfin... Et c'est uniquement pour ça que les pharmaciens font attention, hein, dans tous les pays, hein. Parce que, attention, si c'est pour ingérer, j'ai le droit qu'aux graines. Et tu n'as pas le droit de rajouter du CBD ou autre dedans, parce que c'est le CBD, la molécule CBD et les cannabinoïdes qui sont interdits par la FDA.
Est-ce que ce sont les molécules ou est-ce que c'est ce qui est issu du chanvre ? C'est-à-dire que, d'accord, parce qu'on aurait pu se dire, en fait, autant faire des molécules de synthèse, si les molécules de synthèse ne sont pas interdites, enfin, si elles ne sont pas issues naturellement de la plante, donc c'est pas interdit.
Non, c'est pas, tu pourrais dire, je vais synthétiser du THC Delta 9, hein, je parle THC, le vrai, hein, Delta 9, non, il sera illégal.
Ok, d'accord. Qu'est-ce qui pourrait faire la bascule aux États-Unis ?
Qu'est-ce qui pourrait faire la bascule aux États-Unis ? L'avancée de la science. Sans rien. L'avancée de la science, l'arrêt de la désinformation, l'arrêt des lobbyismes contre et la mise en puissance des lobbyistes pour. Enfin, c'est un équilibre qu'il faut trouver progressivement, ça viendra. Ça viendra. Avant, il n'y avait aucun lobby pro-cannabis. Il fallait de l'argent, c'est comme tout. Hein. Il y a eu des gens justement qui se sont lancés comme Mark Emery au Canada. Mark Emery, c'était quelqu'un, il a vendu illégalement aux États-Unis des millions de graines, il a fait des millions en argent. Ça lui a permis après de faire du lobbyisme, ni plus ni moins du lobbyisme. Il a passé quelques mois en prison aux États-Unis la fois où il a passé la frontière, et puis hop, c'est là qu'il a écrit ses livres et autres. Après,
très intéressant.
Il y a justement le fait que des pays comme l'Allemagne légalisent, on va avoir l'agence du médicament qui, elle, risque après d'avoir tellement de pression qu'elle-même va faire pression aussi sur le FDA.
Oui, après, est-ce que la FDA va vraiment se prendre un coup de pression par la France qui fait 70 millions d'habitants?
Non.
Bon, on n'est pas grand-chose par rapport aux 300 millions et aux milliards que... Enfin, ça reste quand même aujourd'hui les boss du jeu nommé économie mondiale.
Bien
c'est
sûr.
Quand même eux encore les grands champions. Mais bon, ça, plus...
C'est comme tout, économiquement, il y a tellement à gagner pour tous les pays légalisés que... Alors, les pays qui en pâtiraient le moins, qui vont le plus à gagner, c'est justement pas ces pays-là, c'est les pays comme... l'Amérique du Sud, tous ces pays-là, tout ce qui est en Amérique du Sud, l'Afrique, c'est des pays qui n'ont qu'à y gagner à légaliser. Maintenant, les pays comme l'Europe et autres, les pays comme les États-Unis, non, parce qu'ils vont avoir aussi une diminution de leur propre industrie de l'alcool et autres, puisque quand il y a une légalisation, il y a aussi une baisse de l'alcool, la consommation d'alcool. Et donc, si tu importes tes produits d'un pays et puis que tu vends pas les tiens, c'est pas bon. C'est mieux l'inverse, quand même.
Et encore donc, qu'en France, on pourrait être un très 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 bon producteur, un très gros producteur de cannabis.
Ah oh ben on a, tiens, j'étais en France là, en Champagne, il y a quelques jours. Je suis passé dans l'Aube pour redescendre. Hein, et il y avait les beaux champs de chanvre qui poussaient au bord de la route, au bord de l'autoroute. Pour moi, c'était naturel les champs de chanvre. J'avais été avec l'école, j'ai souvenir d'avoir visité la chanvrière de l'Aube. C'était une visite normale quoi d'école, mais on appelle ça chanvre. On a toujours mis dans la tête des gens, c'est du chanvre. On leur a pas dit, c'est du cannabis.
Ben alors écoute, dans ce cas, j'irai bien directement sur ce sujet qu'on avait prévu aussi. C'était un peu l'évolution de la plante, des plantes, mais surtout de la plante de cannabis, pour justement comprendre pourquoi est-ce qu'en fait, en France, on a des pleins champs de chanvre. Quel type de chanvre c'est? Est-ce qu'on pourrait cultiver de la fleur sur ce modèle-là? Pourquoi oui, pourquoi non, etc. Je pense que tout ça part, et je suis ultra content de pouvoir le faire avec toi, de justement de l'évolution de la plante et ce qui donne aujourd'hui les résultats de plantes différentes avec certainement des applications différentes.
Ouais. Pour en venir à l'évolution, un peu l'histoire, on pourrait dire l'histoire propre du cannabis, faut pas oublier que le cannabis, ça reste quand même une grande famille. Il y a plein de plantes qui sont issues de la même famille à la base. Les tomates sont issues de la même famille. Le houblon est issu de la même famille. Ouais. L'ortie est issu de la même famille. D'ailleurs, petite astuce, quand vous voyez un champ d'ortie, c'est un bon endroit où planter. Parce que les ingrédients de l'ortie sont à 99,9% les mêmes et les besoins sont identiques. Donc, un beau champ d'ortie équivaut à un beau champ qui serait à la place.
Un bon entendeur, si vous avez des orties chez vous.
Voilà. Ah ben, les meilleurs champs d'orties font les meilleurs endroits de culture. Ça, c'est clair, net et précis.
Je me permets là, on dit souvent aussi une bonne terre à blé, c'est une bonne terre pour le chanvre, si on veut qu'il y ait...
Alors ça, je ne sais pas.
Okay.
Le blé a besoin de beaucoup d'azote, le cannabis aussi, certes. Mais je peux pas te dire. Là c'est un
okay, donc,
pour les agris, la partie, tu vois, agris chanvre, je discute avec beaucoup d'agris qui font du chanvre, et pour eux le passage au CBD, c'est totalement une autre approche, faut pas l'oublier, un agri qui fait se lancer dans l'agriculture du CBD, même pour un chanvrier, c'est pas simple.
Ça n'a rien à voir. Les besoins sont absolument pas les mêmes. La façon de cultiver n'est absolument pas les mêmes. La façon de récolter n'est absolument pas les mêmes. C'est un autre travail, totalement. Totalement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui fait du chanvre, il peut pas dire du jour au lendemain, bah, allez, je me mets au CBD. Il va pas, il va lui falloir.
Quoi qu'il pourrait faire de l'extraction.
Oui, non, mais c'est-à-dire, je veux dire.
En fait, pour les moissonnes.
Les agriculteurs, ils ont tendance à avoir leur côté à calculer l'azote qu'il leur faut dans le sol, à calculer la rentabilité, à calculer le taux qu'ils vont faire, à calculer le temps de quintal à l'hectare, ainsi de suite, enfin de récolte. Là, t'arrives avec un agriculteur, tu lui proposes de faire du CBD, je l'ai fait. Pour lui, c'était. Mais alors attends, vu qu'il va y avoir qu'une plante, comment je fais l'engraissage, comment ça va se passer, quel taux faut que j'amène, et puis pour récolter, alors on fait comment, on va utiliser quoi, qu'est-ce qui va pouvoir aller comme type de machine, est-ce qu'on va pouvoir utiliser une machine, enfin tout de suite c'est un autre monde, c'est un autre. Ouais, ouais, et même si le chanvre et le cannabis sont les mêmes plantes, sont issus donc font partie de la même famille. Le houblon aussi, tiens, en fait partie. Le houblon, tous les cannabinacés, c'est une grande famille. Et à la base, le cannabis, le chanvre, c'est une plante qui a 10 allèles.
Ok.
Les allèles, c'est dans les chromosomes, c'est la partie, la barre du chromosome. Il y en avait 10 et ils étaient à une allèle. Après, lors d'une mutation, alors, il y a des systèmes pour faire muter ça. On a la colchicine, par exemple. C'est issu du colchique. Ça ressemble à... Ça fait une plante qui pousse en octobre, qui fait un peu... qui a un bulbe. Ce bulbe contient de la colchicine. On utilise ça en médecine pour la goutte, les crises de goutte. Les gens qui ont des crises de goutte, on leur donne de la colchicine en ni plus ni moins. C'est considéré comme un poison parce que c'est un mutagène. Et si tu prends beaucoup, il y a beaucoup de plantes qui ont muté grâce à des mutagènes qu'il pouvait y avoir dans l'environnement, comme là un bulbe de colchicine qui serait à côté d'une graine, on va dire, elle va muter. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une multiplication d'allèles. C'est-à-dire qu'à la base, on ne va plus avoir qu'un allèle, on va en avoir deux par chromosome. Comme nous, l'humain, on pourrait dire. Là, tu vas avoir des plantes qui vont être donc à ce qu'on appellerait 10, c'est un peu compliqué à comprendre pour les gens, mais si tu préfères, tu te retrouves avec la différence, tu vas avoir une plante qui est identique avec 10, mais de une seule allèle, tu vas passer à une plante qui ressemble à du chanvre, mais non plus à 10, mais à 20 allèles, parce qu'elles sont doublées. Elles sont liées, ça. Et après, tu vas encore avoir un système de mutation qui est la polyploïdie, où là, on se retrouve à 3 allèles. À chaque fois, les allèles, sur chaque allèle, tu vas avoir des milliers d'inscriptions, qui sont les gènes, qui vont donc servir à la plante à se fabriquer. Humain, pareil, toute plante, toute vie sur Terre a besoin de ce code génétique, c'est le génome, pour pouvoir se reproduire. À chaque fois, on va avoir la prise du génome sur une allèle pour faire quelque chose, que ça soit une protéine, pousser, ce qu'on veut. Et quand tu as cette multiplication, tu vas avoir aussi, bon, chez l'humain, on va pouvoir prendre, c'est un peu plus évolué, on va pouvoir prendre à une allèle, voire à l'autre, mais sans taper dans les deux en même temps. Alors que quand tu vas avoir de la polyploïdie chez la plante, c'est toutes les allèles qui vont partir en même temps, qui vont lancer les choses. C'est pour ça que tu vas retrouver des plantes qui vont faire ce qu'on va appeler des mutations complètes, ou que tu vas avoir des têtes polyploïdes, où là, c'est carrément une mutation de la plante.
Ok.
Maintenant, quand on a tout ça, ça reste quand même tous reproductibles entre elles. C'est pour ça qu'on va avoir au début le chanvre qui s'est développé, et que ça soit, nous en Europe, on a eu principalement le chanvre, et en URSS, on va dire, eux là-haut, à cause des conditions climatiques, il a fallu que la plante se développe différemment. Elle s'est adaptée, puisqu'il y a toujours une coévolution entre le terrain et l'animal ou la plante. Nous, humains, on a évolué parce qu'on coévolue avec notre environnement. Notre environnement évolue, on évolue avec. Ça a toujours été ça. Donc, les plantes, c'est pareil. Et donc, là-haut, elles s'adaptaient différemment. C'est devenu ce qu'on a appelé la ruderalis. La ruderalis, qui est donc une variété qui est photopériodique. C'est-à-dire qu'il lui faut un certain nombre... non photopériodique. Il lui faut un certain nombre de jours pour pousser. Non pas comme le cannabis, en général, ou le chanvre, ou le cannabis qu'on a tendance à faire pousser en intérieur pour nous, ATHC. Lui va pousser avec plus de 12 heures de lumière, il va seulement pousser végétativement. Et quand on va descendre à 12 heures de lumière, c'est-à-dire au mois de septembre, il va se mettre à fleurir. Lui, il peut rester, on va dire, en végétatif autant de temps qu'on veut, si on le met sous lampe, plus de 12 heures de lumière. Alors qu'une variété non photopériodique comme une ruderalis, qui ont été utilisées pour faire ce qu'on appelle maintenant les autofluorescentes, ATHC, elle a besoin ni plus ni moins d'un nombre de jours. On va dire 100 jours. Au bout de 100 jours, voilà, elle est morte. Elle déclenche automatiquement, dans ses gènes, il y a inscription de déclenchement de floraison au bout de tant de jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces variétés-là. Comme ça reste du cannabis, on les a croisées avec des variétés THC. Et à chaque fois, on a fait de la sélection pour garder le gène qui permet qui fleurir en un certain nombre de jours. Et à la fin, on se retrouve maintenant avec des variétés fortes en THC qui sont autofluorescentes. Mais elles ont toujours en elles, il y a toujours les gènes, il y a toujours ce qu'on appelle un gène dominant et un gène récessif. Dans les gènes, on a tous des inscriptions des gènes récessifs. Et les gènes récessifs, ils peuvent redevenir dominants. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, avec un stress ou autre, ça peut redevenir dominant. Et elle peut perdre cette faculté à fleurir. C'est pour ça qu'on dit souvent que les autofluorescentes, c'est très fragile, il faut y aller doucement, ça devient hermaphrodite de peur, ça... Parce que justement, c'est très, très, très sensible.
Et donc, l'avantage d'avoir une variété forte en THC, en tout cas forte en cannabinoïdes, mais qui est autofluorescente, c'est de pouvoir laisser la lumière longtemps.
C'est qu'on peut en faire à plusieurs moments. C'est-à-dire que si tu prends une variété normale de cannabis à forte taux de cannabinoïdes, tu vas te retrouver avec une plante qui ne va fleurir qu'au mois de août-septembre. Voire octobre. Dans des régions comme le nord de la France, je peux t'assurer qu'au mois d'octobre, le temps, il est quand même pas terrible. Donc, tu vas avoir énormément de moisissures et autres. L'avantage des autofluorescentes, c'est comme en général, c'est à peu près 100, 120 jours de temps de pousse à partir du moment où tu mets la graine. Après, la taille, ça va être l'expérience et du cultivateur qui va faire la taille de la plante. Et puis le temps, évidemment, qu'il va faire. Mais tout n'est pas dans la graine. Beaucoup de gens croient, je vois souvent des posts sur Internet et autres de gens, j'ai fait des autos, c'est vraiment de la merde, les plantes, elles font 20 cm. Peut-être que tu as raté la culture. C'est peut-être pas la faute de la génétique. Si la weed est bonne, une bonne weed, c'est 3/3 qu'il faut absolument réussir. Le 1/3, c'est la génétique. Le 2/3, c'est les conditions de culture et donc le cultivateur. Et le 3/3, c'est la récolte et le séchage. Et la manucure et le curing, on va dire. T'as pas le droit d'enfoirer un seul. Si t'as une mauvaise génétique, t'auras beau faire ce que tu veux après, t'auras de la merde. Si t'as un mauvais cultivateur ou une mauvaise condition, t'auras beau faire ce que tu veux, t'auras de la merde. Si t'as une bonne récolte, de la bonne génétique, mais que tu rates ton séchage, qui est une partie très importante, t'auras de la merde. T'as pas le droit de rater aucun de ces trucs-là. En culture, c'est comme ça.
Mais écoute, c'était incroyable. J'ai encore plein de questions là, mais déjà, c'était incroyable, l'explication sur l'ADN.
Je pourrais faire un truc spécial là-dessus pour expliquer, si tu veux, pour qu'on fasse, qu'on parle même génétique et breeding, parce que ça fait partie du breeding. Sur comment faire ses propres variétés, comment faire ses propres bonnes variétés, parce que justement, il y a tellement de gens maintenant qui vont récupérer des graines, ils ont dans un paquet de weed, oh, il y a une graine, je la récupère, je la fais pousser. Surtout pas, jamais. Dedans, il y a 95 et 99% de chances qu'elle ait d'inscrit dans ses gènes hermaphrodisme et qui sortira facilement. Et toutes les générations suivantes aussi.
Mais alors justement, ça revient à mes premières questions. Ouais. Donc là, on a bien compris justement donc la différence photopériodique, pas photopériodique, donc autofloraison. Est-ce que tu peux nous parler donc des trois choses? À chaque fois, j'ai oublié le nom
mâle
exact.
Femelle, tu veux dire mâle, femelle et justement pour le chanvre qui lui bah, est...
Ouais. Moi, j'allais dire monoïque, dioïque.
Bah, tu vas avoir justement, c'est les meilleurs termes évidemment, tu vas avoir le cannabis à fort taux de THC. Il a été sélectionné puisque venant de plantes d'Afrique qui ont évolué différemment, elles ont évolué en étant uniquement mâles ou uniquement femelles. Donc, c'est la rencontre des plants des deux qui va te donner les graines sur les femelles. Maintenant, les variétés type justement Ruderalis, elles sont hermaphrodites de nature. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui font pousser des autofloraisons, des plantes autoflo, qu'il y a beaucoup de chances d'avoir un gène hermaphrodite qui va rester inscrit dedans.
Donc,
comme je disais tout à l'heure, le gène, il s'inscrit souvent, il n'est pas dominant, il est récessif.
Ouais.
Donc récessif, ça veut dire qu'il ne s'exprime pas, on ne le voit pas. Tu vas faire pousser une plante qui te paraît être une femelle. Tu vas te dire, oh, je vais la faire se reproduire avec un mâle que j'ai, je vais faire des graines, ça me fera des graines pour la suite. Mais manque de peau, ce gène récessif, un petit coup de stress, il devient dominant au moment de la reproduction, toutes les graines deviennent hermaphrodites. Après, il y a aussi une histoire de dans le breeding. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse carrément un truc sur le breeding simplement pour expliquer comment ça se passe un peu avec les gènes, la recombinaison des gènes, l'effet mémoire des gènes. Mais tout ça, c'est un peu puisque c'est un rapport avec l'humain aussi.
C'est
comme nous quand on prend un humain qui est stressé. Tu prends un enfant qui a été stressé étant jeune et compagnie. Il va avoir des enfants. Ces enfants ont une énorme chance d'avoir un gène prédisposé à être stressé. Parce que la génétique, ça reste de l'acquis et aussi de ce que tu apprends et de ta vie au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a tous des gènes qui sont dominants et récessifs. Et il se trouve qu'avec des problèmes ou autres, on peut faire monter un gène récessif dominant. Et donc après, bah, il est transmis à la génération suivante. Mais ça, c'est vraiment un cours de génétique et autres sur le breeding qu'on pourrait faire, hein, puisque ça peut être intéressant pour les gens de savoir comment faire ses propres graines et ne pas justement faire n'importe quoi, puisque c'est ce qui est beaucoup fait.
Carrément. Ça, ce serait quelque chose vraiment dédié à ça. Ouais. Un épisode vraiment
dédié à ça. C'est comme, je sais que tu voulais qu'on parle un peu de symbiose et autres et tout ça.
C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour aller sur ce sujet-là qui est incroyablement intéressant. Ce serait dommage de le louper. mais on se revoit. Déjà, c'était trop cool, là, tout ce que tu nous as appris sur l'histoire du cannabis.
Il y a 27 000 ans derrière nous d'histoire de cannabis.
Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Et d'ailleurs, est-ce que tu as... ce serait génial qu'on puisse mettre en description si tu as des bonnes sources ou des personnes que tu sais être très sérieux sur ce genre de sujet.
Ah oui.
Génial.
Je vais t'envoyer tout ça, comme ça tu pourras les mettre derrière. Puis les sources même de ce que je dis, y a des études scientifiques ou autres à chaque fois qui ont été faites, quoi. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est juste que je reprends les informations accumulées et c'est une synthèse.
Ouais. Eh bien, écoute, carrément, on fera ce taf-là. Vraiment, on peut pas terminer sans parler de la symbiose avec la nature. Je sais que...
C'est une partie, moi, qui m'intéresse vraiment. Et ça concerne, tiens, ce qu'on parlait un peu avant, au niveau des graines, justement, puisqu'il se passe la même chose pour le sol. Les gens, ils croient que la terre, c'est pour une plante, toutes les terres sont pareilles, tout est pareil. Mais c'est un peu comme nous, l'alimentation. C'est comme aller au McDo, aller dans un magasin bio, avoir... Tu lâches un gamin dans un supermarché, si tu lui donnes accès à tout, il ne va pas aller manger les meilleurs trucs. La plante, elle fait exactement pareil dans la terre. À l'état naturel, elle fait exactement pareil dans la terre. Donc, c'est pour ça qu'avoir une terre, une bonne terre, un bon substrat de culture, c'est hyper important. Et la vie donc, qu'on va avoir dans le sol, elle est hyper importante puisque c'est une vie qui vit en totale symbiose, c'est-à-dire qu'elle vit en symbiose aussi bien avec elle-même, la plupart, à part certains petits insectes qui en mangent d'autres, mais c'est un cycle complet qui se renouvelle en permanence. Et elle va être connectée à nos plantes qu'on va mettre. Si on prend l'exemple du cannabis, faire un super sol pour le cannabis, ce qu'on appelle un super sol, c'est un sol vivant, c'est pas donné à tout le monde. Je vois souvent des exemples de gens qui me disent « Ah, j'ai fait un super soil, j'ai pris du compost, j'ai mélangé ça, tiens, je comprends pas, ça pousse pas. » Non, Non, c'est comme si qu'on disait, bah, je vais prendre tous les éléments qu'il faut à un humain, c'est-à-dire du sucre, du gras, tout, et qu'on sépare tout, puis qu'on dit, bah allez, je fais un mélange, n'importe comment. Ah merde, j'ai mis trop de sel, tant pis. Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe dans un sol. Un sol, il faut qu'il soit équilibré. Et après, la vie elle-même va être en cercle permanent. Elle va se développer, elle va faire son cycle. Donc, comme je te disais, dans le sol, le problème, il y a une vie qui est tellement énorme qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a une expérience qui a été faite. Si on prend une souris, il y a eu une souris, on a injecté un liquide radioactif dedans et on l'a mis sur un carré sur lequel c'était une terre naturelle, donc qui était remplie d'insectes, de bactéries, de mycorhiza. Et on l'a laissée, elle était morte hein, évidemment, hein. On l'a laissée là. Et au bout de 10 jours, on a regardé où était parti le liquide radioactif. Le liquide radioactif, la souris, était réparti sur 100 mètres carrés en 10 jours.
Incroyable.
Tout ça uniquement parce que dans le sol, il y a les mycorhiza, qui sont des champignons. Mycorhiza, c'est champignon, ça vient du latin, champignon et racine. C'est un champignon qui colonise la racine et qui se développe avec. Il y a des plantes qu'on a essayé d'importer dans le passé, par exemple. On essayait d'importer des arbustes en prenant les graines. Hein, on essayait de les faire pousser dans d'autres pays. Oh, ben, ça marche pas. Il y a des gens, des fois, ce qu'ils font, c'est ça. C'est ils prennent des graines d'un pays, ils essayent de les faire pousser chez eux. Oh, ben, ça marche pas. Non. Ça marche pas tout simplement parce que énormément de plantes sur Terre ont besoin justement de ces mycorhiza, ont besoin de vivre en symbiose avec un type de champignon ou autre pour pouvoir se développer et pour pouvoir se nourrir. S'ils n'ont pas ça, bah, ils vont vivre au démarrage avec leur réserve de graines et après ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas la faculté de se nourrir. Les mycorhiza, ils rendent un énorme service aux plantes, c'est-à-dire qu'ils vont casser la roche. C'est la seule substance des mycorhizas qui arrive à casser, à détruire de la roche pour en extraire.
Donc, du coup, pour être sûr, la mycorhiza, c'est un champignon qui vient se greffer, qui vient coloniser.
Il vit obligatoirement avec une racine. Il peut pas vivre seul.
Mais c'est pas une racine indépendante. C'est forcément sur une racine d'un brin d'herbe, d'un arbre, d'un arbre.
Voilà, ouais, bien sûr. Être colonisé. Il y a des types de mycorhiza qu'on appelle des glomus. Les glomus, ils vont coloniser, bon, énormément de types de plantes, mais ils vont principalement coloniser les ronces, par exemple.
OK.
Et donc, ils vont être, c'est pour ça que la ronce, quand on prend une forêt, c'est un univers entier qui vit en symbiose. Et pour avancer, il y aura toujours de la ronce au démarrage. La ronce arrive. Elle crée le premier territoire avec les champignons qui sont connectés aux arbres et à elle, de façon à être sûre de survivre. Comme ça, elle a à boire et à manger. Après, ses feuilles tombent, ils font de l'humus, ça attire la vie, hop, les arbres, ils avancent. Mais une forêt, elle avance toujours de par... C'est pour ça qu'on voit toujours les ronces au démarrage.
Mais oui, c'est dingue.
C'est elles qui avancent avec leur mycorhiza pour après faire de terrain un terrain fertile à la suite. C'est comme ça qu'une forêt avance. C'est pas... Oui, les oiseaux et autres vont disséminer, évidemment, les graines. Mais la forêt d'elle-même avance grâce aux mycorhizas. T'enlèves les mycorhizas... Il y a des expériences qui ont été faites dans des champs. Récemment, ils en parlaient, ils montraient le résultat. Il y avait l'expérience du slip. C'était un slip blanc mis dans des champs, par exemple. Il y a une expérience pour voir ta vie dans le sol. Tu prends un slip et tu l'enterres dans ton champ. Puis tu vois, au bout d'un an, comment il est. Bah, si c'est un slip en coton, hein. Normalement, il doit être complètement détruit. Si tu fais ça dans un champ, une monoculture, tu le sors au bout d'un an, bah, il est presque intact. Ça montre qu'il n'y a plus de vie. Parce que les plantes, évidemment, si tu l'habitues à ne plus vivre en symbiose avec ses mycorhiza, elle peut, elle va. Certaines plantes vont réussir à s'adapter, c'est l'évolution. Elle va coévoluer avec son environnement, elle n'a pas à manger quelqu'un qui l'aide, et c'est ce qu'on a fait. On sélectionne les plantes qui sont industrielles, dites industrielles, la plupart vivent sans mycorhiza. C'est l'engrais qu'on va amener, les intrants, tout ça, qui vont faire que la plante va se développer. Mais il n'y en a pas, il y en a très peu, qui arrivent à se développer, d'ailleurs maintenant, avec les mycorhiza. C'est devenu un ennemi. C'est pour ça que dans les champs, bah, ils mettent des fongicides. De toute façon, dès l'instant où on met un fongicide, qui dit fongicide, dit tueur de champignons. Donc, ça tue aussi les mycorhiza.
Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que ce que je voyais de grave, c'était que donc on fait des sols morts, voilà. Mais en plus, on crée des variétés. Enfin, du coup, les variétés deviennent
dépendante.
Brisa averse, quoi. Enfin, elle
dépendante à nous. Dépendante à tout ce que tu leur donnes. Puisqu'elles peuvent plus aller chercher. Le fameux, l'expérience de la souris sur les 100 mètres carrés de répartition des éléments. Tu vois, je vais dire un exemple. Dans un champ, là, t'as intérêt de mettre la dose d'engrais pile poil autour de la plante. Elle peut pas être loin. Dans la nature, actuellement, un animal meurt. Il y a des forêts au Canada qui ne sont là que parce que les saumons meurent. Les saumons, en mourant, amènent toute la potasse nécessaire pour pouvoir à la forêt de survivre. Dans la nature, il y a énormément de symbioses qu'on ne voit pas. Dans le sol, c'est encore pire. Et dans les arbres, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on croit, nous, avec nos yeux d'humains, voir les choses, mais on voit la surface du sol, c'est-à-dire les bébêtes qu'il y a en surface. On voit ce qui est à un mètre du sol. Mais dans la canopée, un arbre, il multiplie de souvenirs, c'est par 100 son nombre d'insectes tous les 10 ans, en lui, dans la canopée.
Ok, ok.
La canopée, on ne fait que de commencer à l'étudier. C'est des gens comme Francis Allais, c'est un énorme, c'est enfin un personnage énorme. C'est le premier qui a créé ce qu'on a appelé le radeau des cimes. Ça a été des comme des montgolfières qui venaient poser sur les arbres en Amazonie pour aller étudier la vie qu'on ne connaît pas qui est dans les arbres, parce qu'on ne connaît rien de la vie dans les arbres. Il y a une paille, il y a une vie énorme. Tout ça, on ne connaît pas. Nous, en tant qu'humains, quand on voit que l'humain, il essaye d'aller sur Mars et autres, on ferait déjà mieux de voir ce qu'on a autour de nous. Il y a des solutions pour tout. La nature, elle a toujours su faire sans nous. Quand on voit qu'une plante, c'est une usine nucléaire, une plante. Pour faire la photosynthèse, les photons, quand ils arrivent sur une plante, c'est une réaction nucléaire qui se passe. Il faut casser l'eau. La molécule H2O, elle est hyper stable. Le problème à l'heure actuelle pour faire des voitures à hydrogène, on dit ouais, les voitures à hydrogène, pourquoi on n'en fait pas, de l'eau, il y en a partout. Parce que pour casser la molécule d'hydrogène, l'enlever de l'oxygène, du H2O, la molécule de l'eau, pour le casser, ça demande tellement d'énergie que l'énergie que nous rapporte l'hydrogène une fois extraite, ça ne correspond pas. La plante, elle le fait en permanence. Gratuitement, en permanence, elle chope une molécule d'eau, pouf, un photon, elle explose, elle enlève l'hydrogène, elle sépare l'oxygène, elle mélange avec du CO2, enfin elle prend du CO2, hop, paf, paf, à la fin, ça fait COOH, du sucre. Avec de l'air, avec du CO2, de l'eau, elle fait du sucre. Tu te dis, c'est dingue.
Non, mais c'est incroyable.
Du sucre, merde, avec de l'eau, c'est rien de plus. Une molécule de sucre, c'est ça. Donc, elle sait faire ça. Donc, on ferait mieux de regarder justement ce qu'on a au sein de la nature, essayer de reproduire ces choses-là, au lieu d'essayer d'aller coloniser une autre planète, de faire le parasite.
Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose... On parle à fond là, d'intelligence artificielle comme la prochaine révolution qui va changer notre monde. On est capable d'utiliser... un champ de chanvre ou une forêt comme panneau solaire, parce que pourquoi pas. T'imagines un peu si on arrive à faire
On arriverait à faire les mêmes cellules que la pour faire la photosynthèse, mais tu te rends pas, c'est énorme quoi. Le seul déchet que tu fais, c'est de l'oxygène.
Quoique peut-être que s'il y avait beaucoup trop d'oxygène dans l'atmosphère, ça poserait des problèmes. Comme tout.
On arriverait toujours. mais on arriverait à recombiner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens dans la nature. On ne sait pas observer la nature. L'humain, à part maintenant regarder des téléphones et autres, et aller chercher une info, mais observer, non. On a comment c'est que ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Bref. Dis-moi. Ça pour dire que dans la nature, il y a vraiment énormément d'informations, énormément de connexions, que l'humain, il a essayé de les faire perdre. Aux plantes, il a essayé de faire pareil. Il a fait perdre ses connexions. Maintenant, on se rend compte de quoi ? Que si la nature, elle est au complète, il y a un équilibre, une symbiose qui se forme. Alors, il y en a, ils vont te dire, oui, c'est pas une symbiose, parce qu'il y en a qui en bouffent d'autres, et ainsi de suite. Si, il n'y a pas d'évolution négative. Elle reste positive. L'évolution au sein de cet environnement reste positive. Donc moi, j'appelle ça une symbiose. Même s'il y a des organismes qui vont mourir, d'autres qui vont apparaître,
et on est dans de la, on n'est pas dans du chaos. Le chaos, c'est aller vers la destruction. Alors que quand tu laisses un écosystème se mettre en place, qu'il y a, les écosystèmes qu'il y a sur Terre, quand tu les laisses se mettre en place, ils sont à l'inverse du chaos. Ils vont pas vers la destruction. Il y a que l'humain qui va vers la destruction.
Et en parlant de destruction, c'est, j'en ai entendu parler quelques fois, mais j'ai pas encore été vérifié. Est-ce que tu as entendu parler de l'idée que, en fait, il y a une corrélation entre au moment où on a arrêté quasiment mondialement de cultiver du chanvre et certaines populations, comme certaines populations d'oiseaux? Je sais pas si ça te parle.
Alors, pour moi, ça, c'est si on prend, regarde, si tu prends l'histoire, pour moi, c'est ni plus ni moins, oui, l'histoire des migrations d'oiseaux qui ont fait beaucoup d'évolutions, aussi bien des maladies que d'évolution des plantes. Ça, je suis d'accord. Les migrations d'oiseaux sont très, très, sont responsables dans énormément de, même des maladies. Mais avant, les cycles étaient plus courts. Justement, avant, tu avais beaucoup plus de migrations d'oiseaux, les cycles des maladies et autres étaient de 5 ans. C'est-à-dire que tu avais une maladie ou une infestation qui arrivait, un nouvel insecte, il arrivait parce qu'il y avait les migrations qui l'apportaient, oui. Et, mais la migration, on va dire en 5 ans, apportait sa solution. Maintenant, on est sur des solutions de 20 à 30 ans, tellement les migrations des oiseaux ont diminué. Donc le problème, quand il arrive, il y en a moins qui peuvent ramener la solution, elle met plus de temps. À chaque fois, c'est l'humain qui a bloqué les couloirs de migratoire. Si on prend le croissant fertile, le croissant fertile, c'est un désert. Mais ce n'était pas un désert avant.
Le croissant fertile, on est bien sur la Mésopotamie, oui. Et cet endroit-là.
Okay. C'était, mais la Grèce, si on prend même les Romains, mais quand tu vas en Grèce à l'heure actuelle, les ruines, elles sont dans des déserts à moitié autour. Mais à l'époque, non, c'était verdure et compagnie. À chaque fois, c'est l'humain qui est arrivé, qui a fait de la monoculture et qui a foutu le bordel. Le croissant fertile, c'était hyper fertile. Il n'y a pas eu un énorme changement climatique depuis. La différence de température, on l'a vécu la même en moins de 100 ans, je veux dire. Mais non, par contre, si tu rases les forêts, il ne faut pas oublier tous les cycles de l'eau. On pense à l'eau uniquement quand on la voit tomber. Et quand tu vois le nombre d'états possibles de l'eau, la façon dont elle arrive, les façons dont elle arrive, la rosée tous les matins, c'est de l'eau. La façon dont sont créés les nuages, si avec certaines forêts, tu crées des nuages, avec d'autres forêts, tu n'en crées pas. Si tu prends une forêt, tu peux mettre une forêt, mais si elle est uniforme et à la même hauteur, il n'y a pas de création de nuages. Tu commences à faire des différences, tu vas avoir des créations de nuages à cause des turbulences. C'est comme dans une maison, le chaud et le froid, le fait d'avoir de la condensation sur une vitre alors que tu chauffes de l'autre côté. Et ben, plus tu vas avoir de diversité dans la nature, plus tu vas recréer aussi justement de l'eau et recréer des cycles de l'eau. C'est pour ça qu'on sait que pour avoir un cycle de l'eau, il faut des forêts. C'est pas que la forêt elle va retenir l'eau, c'est que la forêt va créer l'eau aussi. Va relancer l'eau dans son cycle, en permanence. À chaque fois, elle va recapter tous les matins, toutes les feuilles, il y a des feuilles, beaucoup de feuilles d'arbres sont à des différences de température par rapport à d'autres. Exprès pour, elle, capter l'humidité le matin.
Incroyable.
Parce qu'en étant plus froide, bah, tu captes l'humidité qu'il y a dans l'air.
D'accord, ça condense plus, ouais.
L'arroser sur le matin sur les feuilles, pourquoi elle est beaucoup plus sur les feuilles qu'ailleurs? Ah, évidemment, quand il y en a plein. Il y en a aussi sur les vitres, aussi sur les... Mais à la base, elle arrive en premier sur les feuilles. Pourquoi? Parce qu'elles se mettent à baisser en température pour attirer l'humidité. Et ça, c'est 0,1-0,2 mm par jour. C'est de l'eau. On ne se rend pas compte, on pense qu'à la pluie. C'est pour ça qu'il y a des pays, comme tu vas en Afrique, tu vas avoir des endroits où il va y avoir qu'une à deux pluies par an, mais pourtant, tu arrives à avoir de la verdure. Tout simplement parce que bah, tous les matins, elles réussissent à se recharger un peu en eau, ça va tout de suite dans les racines, elles gardent ça avec les quelques mycorhizas qu'elles ont, elles se gardent ça. Pour en revenir aux mycorhizas, justement, regarde, si on cultivait, on mettait des allées d'arbres et à chaque fois, on faisait des cultures. Les premiers cultivateurs, ils cultivaient dans des forêts, dans la forêt. Maintenant, on se dit, oh, faut du soleil, il faut de la lumière. Non, non, ils cultivaient dans la forêt. Pourquoi? Parce que c'est les arbres qui nourrissaient les plantes qu'ils avaient besoin. Tout simplement parce que l'arbre, lui, il va aller dans la profondeur chercher les 600, 800 litres d'eau qu'il a besoin des fois par jour, un énorme chêne. Mais à côté de ça, il va donner énormément de sucre aux mycorhizas. Et la mycorhiza, en échange, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va donner des sels minéraux. Mais comme elle est connectée à d'autres plantes aussi, ben, elle les donne à tout le monde, parce qu'elle partage. Donc l'arbre, grâce à cet effet succion d'eau qu'il va avoir fait et avoir produit ce sucre, il va en donner aux mycorhizas, il y a cet échange, elle nourrit d'autres plante. Il n'y a qu'à voir dans une forêt. L'herbe, elle n'est jamais morte dans une forêt. Elle n'est jamais grillée. Tu essayes de recréer un coin chez toi, tu mets de l'ombre. J'ai bien dit de l'ombre, mais pas un arbre. De l'ombre. Bah, ton herbe, elle va griller. Elle va mourir de soif. Elle n'est pas connectée.
Oui, c'est vrai.
Elles sont, plus les plantes sont connectées, plus elles arrivent à se débrouiller. Et moins on essaye, et avec le cana, on peut recréer ce système-là.
C'est-à-dire...
Beaucoup de gens vont utiliser des mycorrhizas dans les cultures de cannabis, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils vont utiliser des mycorrhizas uniquement dans le pot. Ça ne sert à rien où il y a un plant. Ça ne sert, ça sert, mais c'est très peu l'utilité. Si les gens veulent avoir une utilité à mettre des mycorrhizas, il faut que dans leur pot, ils plantent d'autres plantes qui, elles, vont par exemple être des plantes fixatrices d'azote. Il y a des plantes, les fabacées, tout ce qui est la famille des fabacées, les pois, les trèfles, tout ça. Si tu fais pousser du trèfle, le glomus, par exemple, la mycorrhiza que je parlais, basique, qui est sur les ronces, si elle vient, elle va se connecter au cana et au trèfle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, au lieu d'aller chercher du trèfle, le cana, au lieu d'aller chercher de l'azote dans le sol, ben, il va tout simplement prendre celui que lui donne le trèfle. C'est moins d'azote à mettre.
Donc, un peu comme en permaculture, comme en maraîchage.
C'est ça.
En fait, il y a des associations. Quelles seraient, selon toi, les associations les plus simples et les meilleures avec le cannabis?
Ben, le problème, c'est que ça va dépendre du sol.
Bien sûr. OK. Ouais.
Le problème, il va être là. C'est qu'il faut déjà savoir comment créer la vie dans son sol. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué de faire un super soil, puisque c'est vraiment un mélange. C'est pas que ce qu'on va mettre au démarrage, c'est suivant la vie qu'on va amener aussi, puisque elle-même va modifier tout. Si on prend un ver de terre, il n'arrête pas de manger du sol, Enfin, déjà, c'est faux, il ne mange pas du sol. Il le rechie complètement, le sol. Ce qu'il mange, c'est uniquement des microbes. Un ver de terre ne mange que des microbes.
Tu viens de casser un mythe qu'on a tous depuis notre enfance, je pense. Je pense que tous ceux qui t'entendent... Ok, super intéressant, ouais.
Il mange pas de terre, il recrache la terre. Et il va justement la mélanger avec de l'argile. Parce que l'argile, ça, dans son estomac, ça va lui permettre de casser tous les microbes. Et d'en faire une bouillie de microbes, et puis bah, il digère les microbes et il recrache tout le reste. C'est pour ça que, par contre, le caca de ver de terre, c'est magnifique, justement, puisqu'il a tout, il a fait tout le boulot dans son corps. Et il a enlevé en plus toutes les saletés. Donc c'est parfait. C'est pour ça que c'est des erreurs de beaucoup de gens, ça, de croire que on a tellement été habitué avec les fausses images. Regarde, c'est comme moi avec les abeilles. Quand les gens voient une abeille jaune et noire, qui est ni plus ni moins une guêpe, une abeille. Hey, le reste avec Maya l'abeille. Mais Maya, dans les dessins animés, elle est jaune et noire. Une abeille, ce n'est jamais jaune et noir. Une abeille, ça peut être à la rigueur orange un petit peu et noir, mais sinon c'est noir et gris principalement.
Ok.
À cause de la légende, Maya l'abeille. En fait, c'est... Maya l'abeille, elle est jaune et noire.
Non, enfin, une grosse guêpe, ça ressemble bien à une abeille. Une abeille, ça ressemble bien à une grosse guêpe.
Non, à 5 mètres de distance, pour moi, c'est pas pareil. Hein. Rien qu'au vol, à la couleur. Mais on les voit, de toute façon, voilà. Mais pour les gens, le fait que ce soit jaune et noir, c'est une abeille. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, mais eux aussi, on en a besoin. Ils font partie de la symbiose dans la nature. Les abeilles, on en a besoin pour polliniser. Et les guêpes, on en a besoin pour nettoyer. Les guêpes, c'est des... On pourrait appeler ça les rats ou les pigeons de la nature. Okay. Ils nettoient. Ouais. Moi, devant mes ruches, j'ai toujours plein de petits essaims de guêpes qui se forment. Je les laisse parce qu'elles vont venir nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire que s'il y a une abeille qui est, il y a 2000, en été, il y a 2000 abeilles qui naissent, 2000 abeilles, donc ça veut dire par jour. Donc ça veut dire 2000 abeilles à peu près qui meurent par jour quelques mois plus tard. Donc ça fait, c'est énorme, hein, on va dire, le nombre de morts vu qu'il y a un nombre énorme de naissances. Ben, faut bien nettoyer. C'est elle qui nettoie. Elle se sert de la protéine pour elle. Tout le monde a un rôle, mais de recyclage à but d'amélioration, normalement. Nous, on est les seuls qui faisons l'inverse.
Écoute, Nicolas, je pense qu'on va rester là-dessus parce que il y a déjà tellement de choses à digérer, tellement de moments où il faut mettre pause pour aller faire des recherches et waouh, incroyable. Merci beaucoup. Je savais qu'il fallait qu'on prenne le temps de faire un autre enregistrement. Et même là, ça nécessiterait dans quelques temps un troisième.
On va faire un truc de
breeding. Mais merci beaucoup, vraiment. C'est incroyable.
Et puis, bah, de toute façon, si tu as besoin, je vais t'envoyer une paire de sources. Comme je t'ai dit, je ferai ça en fin d'après-midi. Là, je ne vais pas avoir le temps, mais en fin d'après-midi, je te le ferai.
Ok, super. Si on peut en plus avoir des super sources dans la description,
pour que comme ça, les gens, ils mettent sur pause. Hein, pas des sources en anglais, si ce n'est pas en français.
Mais écoute, les sources qui, pour toi, sont les meilleures. Et ensuite, après, voilà, ceux qui voudront faire l'effort de faire des traductions, puis maintenant avec Internet, quand même,
avec Lens.
Là, on peut traduire facilement.
Ouais. Puis c'est quand même un peu, justement, l'IA avance tellement vite que...
ça va être
de la folie, même pour les cultures. Hein. Moi, je sais que j'utilise très régulièrement. Hein, tu sais, même, tu sais, t'as une théorie à la con, tu te dis, si je fais ça, à la fin. C'est comme, tiens, le mycorrhiza, t'imagines que les mycorrhiza sont les seuls, tu peux réussir à trouver une espèce de mycorrhiza qui arrive à manger du diamant.
Ok.
Pourtant, on dit que le diamant, c'est indestructible.
Ouais.
Bah voilà, il y a une mycorrhiza qui arrive à manger du diamant. Un champignon.
Et ça aussi, mycorrhiza, c'est un monde, j'ai l'impression que c'est un monde à découvrir.
Là, c'est le monde qui permet de... C'est la fin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est la mort de toute chose, passe par une mycorrhiza. Et pour être remis dans le circuit. Toujours. C'est-à-dire que voilà, même à la fin, je t'ai dit, si tu termineras dans une éruption et que hop, en pierre, voilà, elle te bouffera, elle te renverra dans la nature. Elle te remontera. Les filaments de mycorrhiza, ils sont tellement grands par rapport à une racine, qu'ils vont tellement profond, tellement loin, qu'elle tape dans tout. Elle recycle tout. Et ça permet d'avoir un équilibre, de ne pas avoir trop. Le fait d'avoir trop d'éléments d'un côté, tu vois, quand t'as un animal, si tu prends un champ, justement, quand dans un champ de blé, ils ont un animal, genre un blaireau qui meurt, normalement, le champ, il est considéré comme impropre pendant des années.
Hein. Ok.
Parce que ça va polluer à cet endroit-là. Maintenant, s'il y a la nature, dans la nature, il y a des animaux qui meurent en permanence et c'est pas pollué. J'ai dit, l'expérience de la souris avec ses 100 mètres carrés en 10 jours, c'est énorme, quoi. Tu te dis, waouh, 10 jours, 100 mètres carrés. Comme quoi, ça va loin, quoi.
Et ça a un lien avec les blobs?
Non, mais les blobs, c'est aussi une forme de... C'est un myxomycète. Ça fait partie de la famille des mycorrhizas.
D'accord, ok.
C'est un myxomycète.
Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Je ne veux plus rien entendre de nouveau parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses à digérer là dans ma petite tête en ce moment. Franchement, c'était dingue. Merci beaucoup.
Bah de rien, de rien. Et puis bah je te dis, t'hésites pas. Si je vais t'envoyer ça, et puis bah si t'as des questions, tu n'hésites pas.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup.
Allez, bon courage, bonne fin de journée.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.